Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi.
Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou.
Sur les toilettes.
Oh, le con.
Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de Dieu. C'est de la pomme de terre.
30 secondes.
Alors, attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur.
Ça coûte, c'est marrant, un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre?
J'ai pris le gros sel à la place du sucre cassant.
Tu veux rentrer chez toi?
J'ai pas envie de
rentrer chez toi.
Je veux pas rentrer chez moi.
Parti.
C'est la catastrophe.
Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles.
3, 2, 1, c'est parti!
Salut à tous et bienvenue dans Micro-Ondes Podcast, votre podcast préféré sur Top Chef, l'émission culinaire préférée des Français. Enfin, je crois jusqu'à cette année c'était le cas, mais vu la saison de Mal Aimé qu'on se tape, je ne suis plus trop sûr du coup. Cette semaine avec moi pour débriefer ces demi-finales, je suis avec Marco. Salut Marco.
Salut Raphaël, bonjour tout le monde.
Comment ça va Marco?
Bah ça va, ça faisait longtemps que j'étais pas venu, il faut le dire à nos auditeurs, j'étais tellement content que Pascal ait quitté l'aventure que Raoul m'a banni. Mais c'est bon, je suis enfin sorti de prison.
Ah là là, ce pauvre Pascal, qu'on reverra la semaine prochaine, hein. J'ai l'impression que j'ai cru le voir dans la bande-annonce de la finale avec une des candidates pour ne rien cacher. Cette semaine du coup, on revient bien entendu sur ces demi-finales, les deux finalistes de cette saison de Top Chef, et puis on reviendra sur une petite preview, des petits pronos sur la finale à venir. Donc un menu assez riche, assez dense. Marco, t'es prêt?
Allez, c'est prêt, on part.
Eh ben on y va, juste après un petit jingle.
Tac tac, bang bang.
Eh, tu te calmes.
Si tu te qualifies pas là, t'as rien à faire en Top Chef.
Après avoir fumé ma viande,
je compte bien fumer Mathias aujourd'hui.
3, 2, 1, top, c'est terminé. C'est terminé.
On y est, on connaît les deux grands finalistes de cette nouvelle saison de Top Chef, qui sont donc Arnaud et Louise, qui sont les grands vainqueurs de ces demi-finales, voire même qui étaient déjà d'ailleurs les grands vainqueurs des quarts de finale. Marco, tout de suite, surprise ou pas de retrouver ces deux candidats en finale?
Alors, oui et non. Oui, quand on pense à Arnaud, il a vraiment un parcours shonen là où il commence. C'était le pire des candidats. Toutes les semaines, nous, on l'avait dans le bas du classement. À chaque fois, on voyait qu'il était à la limite de l'élimination. Il commence même sans brigade. Et finalement, semaine après semaine, ça écrème et il arrive à s'accrocher. Et pour vraiment finir à la fin en boulet de canon et à la fin, c'est presque... Enfin, c'est peut-être même le meilleur des candidats restants. Donc, pour Arnaud, au vu de toute la saison, c'est surprenant. Au vu des dernières semaines, ça n'allait pas du tout. Et c'est même plutôt juste quand on voit voilà, les quarts de finale qui survolent, il se qualifie en premier. Mmh. Les demi-finales, il se qualifie aussi. Enfin, ça semble plutôt logique pour lui. Et après, pour Louise, bah, là, c'est elle, pour le coup, elle a vraiment été au top toute la saison. On voit que c'est peut-être la plus talentueuse de tous les candidats qu'il y avait. Donc, c'est une belle finale, moi ça me fait bien plaisir.
Ouais, je suis d'accord avec toi sur la façon que tu as eu de décrire ces deux parcours. Louise, nous, on l'a toujours eu toute la saison dans le top 3 de nos power rankings, hein, vraiment depuis la semaine 1. C'est peut-être pas la candidate qui a le plus brillé, on va dire, tout au long de la saison, comme on a eu certaines années des candidats qui ont vraiment brillé avec des très très hauts. Mais pour le coup, Louise, à mon sens, elle n'a jamais eu de bas. On ne l'a jamais vue sur aucune épreuve totalement en difficulté. Elle a peut-être fait quoi? Une dernière chance? sur
Ouais,
la
c'est vrai
saison.
que ça me. C'est vrai que j'ai pas souvenir de l'avoir en dernière chance.
Ouais, tu vois, comme ça, là, je suis même pas sûr qu'elle en ait fait une. Alors, bien sûr, des fois, elle en fait pas parce que sa chef décide de pas l'envoyer. Donc, on peut toujours trouver à redire dessus. Mais en tout cas, on l'a jamais senti, contrairement à un Sébastien qui a enchaîné 4 ou 5 dernières chances. Voilà, Louise, elle a toujours eu j'ai envie de dire, un plancher assez haut par rapport aux autres. Et c'est cette régularité qui, clairement, l'emmène en finale. Et comme tu dis, Arnaud, c'est vraiment le boulet de canon de cette fin de saison. Il commence à émerger au moment, de mémoire, c'est un peu l'épisode où il y a l'épreuve là sur le pain avec Massimo Bottura, où il fait un super plat. Et progressivement, avec Glenville, la mécanique prend, et il est de mieux en mieux. Et comme tu dis, il roule sur les quarts de finale et même sur ses demi-finales parce qu'il est quasiment tout le temps dans les deux premiers là sur les trois épreuves. Donc non, non, sacrée performance d'Arnaud sur cette fin de saison. Donc comme toi, je suis pas surpris du résultat. Je crois d'ailleurs qu'on avait tous les deux pronostiqué cette finale-là. Je sais pas si t'avais eu le temps de faire les pronos.
Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on avait. Moi, j'avais mis un petit pari. J'avais dit que je pensais que Sébastien arriverait à se hisser en finale. Bon, ça n'a pas été le cas, mais au moins je l'avais vu arriver jusqu'au demi, alors que vous aviez tous mis Pascal en demi.
C'est vrai.
Donc bon, c'est ma petite satisfaction personnelle. Mais après, ouais, si c'était plus un petit pari, si on se basait sur la logique, ouais. Bah ouais, Arnaud faisait des belles épreuves, mais je crois que avant les quarts de finale, on n'y croyait encore pas trop. Puis après, en quart, mais c'était saisissant en quart. Il y avait vraiment un duel Louise-Arnaud, et puis après, t'avais les deux autres, quoi, tu sais, où tu savais qu'ils n'allaient pas gagner. Il y avait vraiment une différence de niveau, et voilà, ça s'est confirmé en quart avec Arnaud qui se qualifiait en premier. Et voilà, comme tu dis, en demi, après, il roule aussi sur les demi. Bon, mérité, bravo.
Du coup, tout à l'heure, tu disais content de cette affiche en finale. Je suis plutôt d'accord avec toi et je pense que M6 l'est aussi parce qu'au final, est-ce que c'est pas un peu les deux candidats, et là je vais parler de personnages de télé, est-ce que c'est pas finalement les deux meilleurs personnages de la saison, Arnaud et Louise?
Si, si, après il y a forcément un biais parce que c'est des candidats qu'on a vus plus que d'autres qui ont été éliminés plus tôt. Mais tu vois, bah, après moi quand je pense par exemple à Lilian, c'est vrai que ouais, je parlais un peu de l'aspect shonen pour Arnaud, c'est un peu la même chose pour Lilian là, je faisais des étoilés, j'allais ouvrir mon resto, le Covid a tout ruiné, je reviens, je veux revenir en force et tout, ça aurait été hyper beau de le voir aller gagner, tu vois, c'est un peu une histoire à l'américaine quoi. Mais après c'est vrai qu'en termes plus ouais de personnalité, d'affect, comment dire, de personnage qui n'est pas lisse, c'est vrai que voilà les deux, on peut les adorer, on peut les détester. Mais les deux laissent pas indifférents, donc ouais, c'est même pour M6, pour le show, c'est plus télévisuel avec ces deux-là, ouais.
Ouais, bah c'est moi, c'est un peu ce que je me suis dit. Et sans j'aimais bien Sébastien, j'aimais bien Pascal, mais tu vois, je pense qu'en termes de dynamique sur la finale, une finale Sébastien-Pascal, bah c'est pas, à mon avis, c'est pas le même rendu télévisuel que là Louise Arnaud, où on va sans doute avoir un peu plus de punch, de dynamique d'un point de vue télé, encore une fois, hein, sans juger des cuisiniers en tant que tels. Donc je pense que M6 là-dessus s'en sort plutôt bien sur une saison où, on l'a dit, on l'a redit, le casting n'a pas forcément été le plus réussi. Maintenant, j'en profite, hein, tant qu'on est tous les deux, et parce que je pense que tu peux avoir un avis un peu là-dessus, un peu comme moi, j'en profite que les autres sont pas là, nos autres collègues, mais je pense les gens globalement ont été un peu durs avec le casting de cette saison, parce qu'en fait, on sort de deux saisons, les deux d'avant, où en fait M6 a presque fait on pourrait dire un home run en fait sur le choix des candidats. C'est parce que si tu sors des deux dernières saisons, je suis pas sûr que tu arrives à te souvenir de 5-6 candidats par saison non plus dans Top Chef. Je sais pas ce que t'en penses.
Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense aussi qu'il y a vraiment un truc lié à toute cette période de Covid où la plupart des gens étaient enfermés chez eux. Et donc, en fait, c'était un peu des rendez-vous, tu vois, les émissions comme ça, là, comme Top Chef, comme Koh-Lanta. Enfin, si je fais un parallèle avec Koh-Lanta, ça a été aussi les saisons voilà, les plus populaires où on disait, ouais, les candidats sont incroyables, etc. Le roi Claude, machin truc. Bon, on n'est pas là pour parler
Oui, non, mais.
de Koh-Lanta, mais pour moi, voilà, c'est un peu la même chose c'était un peu, voilà, il y avait enfin tous les gens qui étaient coincés chez eux, il y avait un peu rien à faire. Les émissions comme ça, c'était un peu voilà, c'est ces petits points de rendez-vous hebdomadaires, et donc on en a une image beaucoup plus marquante, je pense. Mais c'est vrai qu'en termes de casting, voilà, moi si je repense aux premières saisons que j'ai regardées, moi ma première saison c'est la saison où c'est Xavier Pincemain qui gagne, et tu vois, je me souviens de lui et de Colline qui est en finale, et je crois pas que je me souviens de beaucoup d'autres candidats. Et c'est pareil sur les saisons d'après, là il y a la saison, je sais plus, avec Jérémy Izarn, je me souviens de lui mais je me souviens pas trop des autres candidats. Voilà, je sais pas s'il y a aussi ce truc de, c'était des saisons récentes là pendant le Covid, mais est-ce que dans 5 ans on se souviendra encore de Maury, de Mallory? Je suis pas sûr, tu vois. Je pense que Adrien il restera, peut-être David Gallienne, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi.
Ouais, non, mais c'est ça. Voilà, c'était juste, on en profitait pour partager un peu ce petit bémol, parce que on vous l'a dit, nous, cette affiche de finale nous plaît plutôt, mais c'est vrai que quand on regarde un peu les réseaux sociaux, il y a une sorte de, pas de dégoût, n'allons peut-être pas jusque-là, mais un peu de déception, et je trouve les gens un peu durs. Je pense qu'il y a un peu, comme tu dis, un biais de récence sur les deux dernières saisons et de beaucoup d'autres choses qui se mêlent, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc M6 va quand même devoir taffer l'an prochain sur le prochain casting, parce que ils sont attendus au tournant. Du coup, revenons quand même sur ces demi-finales et sur comment Arnaud et Louise sont arrivés jusque-là. Donc vous connaissez déjà la formule de ces demi-finales, hein, puisqu'elle est comme ça depuis plusieurs saisons. Chaque candidat propose une épreuve qui lui tient, on va dire comme ça, qui lui tient à cœur, où il défie les deux autres candidats. S'il les bat, personne ne marque de points. Par contre, s'il est battu, le candidat qui le bat marque un point. Voilà, format assez classique, qui a fait ses preuves, qui marche très bien. Et tout de suite, je vais te demander, qu'est-ce que tu as pensé de ces demi-finales en termes de niveau, de qualité d'épreuve, convaincu ou pas?
Alors, c'est un peu en deux temps où, après l'émission, je me suis dit, je suis en fait emballé un peu par aucune des trois épreuves, et après en y repensant je me dis bah quand même les trois étaient vraiment originales. Je trouve que sur toutes les épreuves tous les candidats ont fait quand même des plats qui étaient quand même enfin très différents, très réussis. Je trouve que c'était des demi-finales voilà assez dignes de ce nom. Et tu vois, encore une fois, bah, si je refais un parallèle, je parlais de Xavier Pincemain là il y a deux minutes. Je me souviens que lui, son épreuve de demi-finale, c'était sur le raviolo. Donc tu vois, faire une grosse raviole. Excusez-moi, mais je trouve que les trois épreuves de cette semaine là, des demi-finales, c'était plus intéressant, plus challengeant que faire un raviolo, quoi. Donc voilà.
Ouais, non, mais je te rejoins complètement. C'est ça. Je regardais des trucs d'anciennes saisons. On avait quand même des saisons où au début de Top Chef, l'épreuve c'était faire du sucré salé, tu vois. C'était quand même le but de l'épreuve. Maintenant, on est arrivé à un tel niveau. Alors, je sais que ça a aussi ses détracteurs, hein, ce côté encore plus poussé. Mais comme toi, j'ai trouvé que du coup, les épreuves étaient très originales, et finalement que ça correspondait bien à la saison qu'on a eue. Une saison où on n'a pas forcément vu le plus technique de la cuisine française, on va dire. Mais par contre, on est parti un peu dans tous les sens. Une saison un peu punk, j'ai envie de dire, sur certains aspects. Voilà, c'est les candidats ont poussé ce truc-là d'aller dans l'original, d'aller dans le d'aller dans le non classique jusqu'au bout. Ça plaît pas à tout le monde. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé comme toi que au moins là, les épreuves, c'était des choses qu'on n'avait pas forcément vues jusque-là. Donc plutôt content là-dessus. Et l'image de ça, pour moi, c'est quand même vraiment cette première épreuve, et donc le choix d'Arnaud, qui est de partir sur un classique de la gastronomie belge, on va appeler ça classique, hein, le pêche-thon mayonnaise. Marco, ça te parlait déjà? Tu connaissais ce truc?
Non, j'ai jamais entendu parler. Quand il l'a dit, en plus, je pensais vraiment pas qu'il parlait de la pêche, le fruit, quoi. Je me suis dit, je sais pas, moi, ça se trouve, c'est un truc avec du thon, mais que tu fais, je sais pas moi, cru, comme s'il sortait de la pêche. Enfin, j'en sais rien. Mais ouais, l'association, bah, tu sais, ça me fait un peu penser aux au truc que tu peux voir dans les pays nordiques, là, tu vois, Danemark, Suède, où pour le coup, ils vont te faire du hareng avec du ketchup ou je sais pas quoi. Enfin, ça me fait un peu penser à ces trucs-là, là, où c'est vraiment deux aliments que tu mettrais jamais dans ta bouche ensemble. Et pourtant, ils le font, quoi.
Eh ben, écoute, pour la petite histoire, parce que j'ai essayé un peu de trouver l'origine, hein, du pêche-thon mayo, ça m'intriguait. Bon, on sait pas vraiment d'où ça vient, mais visiblement ça naît autour des années 70, voilà, avec une mode du sucré salé en Belgique et de la pêche notamment. C'est vrai que c'est un peu particulier pour le coup. Je pense que l'association en plus sucré salé en France, c'est pas un truc dont on est les plus habitués. On a mis du temps à s'y mettre, hein, dans la gastronomie française. Visiblement, les Belges l'ont fait un peu avec ce plat-là qui est très répandu dans les fêtes de famille, les baptêmes, les... Bon, écoute, je suis pas sûr que j'en goûterai, hein, si je vais en Belgique. Je sais pas toi, mais...
Bah, ça m'intéresse pour l'expérience, mais ouais, a priori, bah déjà, c'est ce que tu disais. Moi, de base, je suis pas trop sucré-salé, tu vois. Les gens qui font des pizzas hawaïennes et tout, c'est crime, quoi. Mais... ouais, pour l'expérience, je pense pas que c'est immonde, hein. Je pense que ça peut bien se marier, parce que le ton a quand même surtout le ton en boîte, tu vois, c'est un peu sec, c'est assez, ouais, neutre, je trouve, comme goût. Enfin, c'est pas très 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 marqué. Bon, pourquoi pas. C'est plus moi le maillot plus pêche, qui me fait tiquer, quoi.
Ouais, je suis plutôt d'accord. Alors du coup, donc cette épreuve proposée par Arnaud, on va remonter le classement du bas vers le premier rang, un peu à la façon Stéphane Rothenberg. Finit troisième de cette épreuve, Louise. Et là, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais Louise, on a senti que dès le début, ça n'allait pas le faire. Elle s'en battait les couilles de cette épreuve. Elle a vu ça, elle a fait « Non, bah, c'est bon, je fais pas, je fais un vieux poisson dans mon assiette et à la prochaine, quoi. »
Ouais, je l'aurais pas formulé comme ça, mais... Et c'est vrai que quand elle a commencé à dire « Ah ben, ils sont belles, ils veulent de l'humour, ben on va faire de l'humour », et là je me dis « Ouf, ça part jamais, ça finit rarement bien ce genre de parti pris ». Et ça n'a pas fini bien, donc on avait raison. Moi, son assiette, honnêtement... Alors, bon, le visuel, pourquoi pas. Moi, les trucs enfantins, j'ai jamais l'impression que ça marche très bien. Tu sais, j'ai l'impression que ça fait sourire tout le temps les chefs pendant 3 secondes.
Ouais,
et après, voilà, et finito, quoi. Ce que je lui reproche, c'est que j'ai l'impression que dans son assiette, bah, déjà, tu vois, il n'y a pas de volume et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mâche, quoi. Tu vois, tout est petit, tout est un peu plat. Enfin, c'est presque que des sauces, des trucs mous. Et du coup, je me dis, bah, en fait, ça a l'air, enfin, je trouve que ça serait un accompagnement sympa de, tu mets une grosse viande à côté, ou pour le coup, un vrai poisson, un truc comme ça. C'est sympa, tu pourrais aller tremper là-dedans et tout. Mais en plat tout seul, ouais, ça fait un peu light, je trouve. Qu'il n'y a rien à manger, quoi.
Ouais, ça faisait light, et puis du coup elle finit troisième parce qu'en fait elle va trop loin dans la revisite de ce classique, et ce qui lui est reproché finalement, c'est de pas retrouver les marqueurs, on va dire, du ton pêche. C'est pas étonnant, hein, vraiment elle fait un mélange d'épices, ça part dans une version presque plus orientale, j'ai envie de dire, de la chose. Bon, donc on n'est pas vraiment surpris par le fait qu'elle finisse troisième de cette épreuve, où moi j'ai eu le sentiment qu'elle y mettait un peu de mauvaise foi, mais enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Deuxième, c'est Sébastien, qui lui tente, hein, une sorte de cannelloni de pêche farci au thon en boîte. Alors, sur le papier, pourquoi pas, et là, la galère commence avec ces cannelloni. Qui sont où il s'est fait assassiner sur le visuel par Paul Perret. C'était dur, non?
Ouais, après il l'avait vu lui-même, tu vois, donc c'est vrai que j'ai eu l'impression que il était un peu sévère, Paul Perret, en arrivant et disant « Non mais ça marche pas du tout, refais-moi un truc propre et tout », alors que Sébastien l'avait déjà vu, tu vois. Honnêtement, moi ça me semblait hyper difficile, en fait. Tu vois, la pêche, c'est quand même un truc, enfin c'est assez gorgé d'eau, donc il a eu beau prendre des pêches c'est Arnaud qui a pris des pêches pas très mûres, mais lui, il a eu beau prendre des tranches de pêche vraiment très très fines, etc. Je voyais pas comment son truc pouvait se tenir et pas, enfin, s'imbiber, pas se déstructurer. Enfin, pour moi, c'était sûr, en fait, que ça pouvait pas fonctionner en cannelloni, et encore plus par le fait que bah, du coup, il fait un espèce de truc, enfin, un peu. Un genre d'entrelacement d'écailles de pêche, en fait, pour faire son cannelloni. Donc, c'est même pas une seule pièce que tu essaies de retourner. Donc, je pense que l'idée était pas bonne. Après, bon, voilà, il a su rebondir. C'est un peu, moi, la critique que je fais à ce format d'épreuve. Il a su rebondir, il finit pas dernier, mais finalement, ça sert à rien. Parce que finalement, c'est premier ou rien. Mais à la fin, moi, j'aime bien le visuel de son plat. Mais je le trouve pas extrêmement créatif, quoi.
Ouais, effectivement, le visuel est plutôt réussi, comme tu dis, il rebondit bien. Mais alors, est-ce qu'il se fait pas piéger? Parce qu'en fait, c'est le seul à vraiment utiliser du ton en boîte de manière aussi franche, hein, parce que Louise, elle utilise le, si je dis pas de bêtises, l'eau du thon en boîte pour sa sauce. Arnaud, il en met un peu, mais il met aussi du, on y reviendra, il met aussi du thon, du thon cru. Enfin, tu vois, il utilise du thon, on va dire, de meilleure qualité. Et finalement, il y a que Sébastien, lui, le seul thon qu'il utilise, c'est le thon en boîte. Est-ce que c'est pas ça aussi un peu qui le piège en termes de goût de n'avoir que ce thon-là?
Bah, si, je suis complètement d'accord. Pour moi, en fait, c'est assez injuste pour lui parce que je trouve qu'en fait, il respecte vraiment les règles à la lettre. Et du coup, ouais, tu dois faire ce que tu peux avec ce thon en boîte qui est pas un aliment très ragoûtant, quoi. Louise l'a dit, on dirait de la pâtée pour chat. Et ton truc, il est très sec, très très effrité. Enfin, ça doit pas être facile à travailler. Et du coup, ouais, je trouvais que c'était un peu une arnaque, peut-être que tu veux élaborer après, mais que Arnaud dise « Ouais, bah, le thon en boîte, c'est pas très bon, du coup, je vais prendre du bon thon à côté, ouais, on va tout mélanger, comme ça fait plus de goût. » Je me dis c'est pas très fair, ça.
Bah, c'est ça. On peut enchaîner, effectivement, sur Arnaud, donc, qui réussit son coup, hein, puisqu'il propose cette épreuve et la remporte. Visuellement, c'est très réussi. Je pense que le côté raviole de pêche marche bien et l'aide beaucoup. Mais comme toi, j'ai trouvé ça un peu facile le coup de dire aux autres faut utiliser du thon en boîte et lui derrière te balance du bon thon bien cuisiné en tataki machin pour en fait que le côté thon en boîte finalement à mon avis devait pas être si présent que ça. Et donc moi je l'ai trouvé presque borderline avec sa propre épreuve en termes de critères, non?
Bah ouais, c'est ça. Alors autant son plat, je trouve que sur les aliments, pour le coup, lui, il va pas loin du tout. J'ai l'impression qu'il dit bah attends, il faut de la pêche, de la mayo, du thon, et en fait il fait presque que de la pêche, de la mayo et du thon. Mais après, ouais. D'accord avec toi, tu vois, je l'ai déjà exprimé, c'est border, c'est quand même assez border. Ouais, de faire ça, pas fou. Bon, après, c'est Arnaud, on l'aime bien, il a gagné grâce à ça, donc tant mieux, mais et tu vois, je sais pas en fait même à quel point il peut être stoppé, tu vois, par les règles du jeu. Enfin, je sais pas si c'est par Stéphane Rothenberg ou si c'est... après, on donne une indication aux chefs qui sont après en disant bah, Arnaud, il avait bien dit de faire ça, et donc du coup, il faut mettre hors sujet les assiettes qui sont pas là-dedans. Je sais pas exactement comment ça se passe après en coulisses.
Ouais, non, effectivement, je sais pas non plus. Je pense pas que ce soit Rothenberg qui en tout cas ait ce pouvoir-là. Mais non, bah, comme tu dis, il a assuré l'essentiel, c'était. C'était réussi, mais c'est vrai que finalement, sur sa propre épreuve, c'était pas forcément le plus créatif, pas forcément le plus... il a pas pris de risque. Après, il a bien géré, hein. C'est le but de cette épreuve, finalement, c'est de finir premier, c'est pas forcément de partir dans quelque chose et de te planter. Donc, tant mieux pour lui, comme tu l'as dit. En plus, on l'aime bien, il nous a bien fait rire avec sa Belgique. J'ai bien aimé son intro sur le thon à la pêche en expliquant que c'était les Belges, qu'ils avaient de l'humour, que c'était surréaliste comme Magritte. Je trouve que ça collait bien. Deuxième épreuve, c'est celle proposée par Louise. Et alors là, Louise, est-ce qu'on est étonné par le choix de l'épreuve, Marco?
Non, on n'est pas étonné par le type d'épreuve qu'elle a pris. C'est franchement un beau challenge, hein. c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vrai que Louise, c'est pas son coup d'essai là, elle avait déjà fait sur l'épreuve du poulet un truc, elle avait essayé de faire un truc avec du sang, mais de souvenir, et il me semble que le poulet qu'elle avait pris, enfin elle a décidé de faire cette recette là, poulet au sang, elle était arrivée, en fait le poulet il avait déjà été vidé, donc il y avait pas de sang, et elle avait essayé de faire du faux sang avec, je sais plus moi, des
abats, hein.
Ouais, des abats qu'elle avait un peu hachés le plus fin possible pour essayer de faire du sang, et ça n'avait pas fonctionné. Écoute, encore une fois, ouais, c'est une épreuve originale. Hein.
Clairement. Donc du coup, cette épreuve, Louise propose à ses camarades de soulever la cloche, et là, il y a du sang, du foie de volaille, et elle leur dit, les gars, faut en faire un dessert. Forcément, côté Arnaud et Seb, ça se... Enfin, Arnaud fait la grimace, Seb il est toujours heureux, il sourit, il rigole, donc pas de soucis de son côté. Moi clairement, je dirais que j'aurais préféré goûter les résultats de cette épreuve-là que du thon pêche, je sais pas pour toi, mais ça m'intrigue. L'utilisation du sang et du foie de volaille dans un dessert, j'avoue que moi ça me vraiment envie de tester ça.
Ouais, ouais, alors moi le côté sang me rebute quand même. Parce que la seule expérience que j'ai, c'est vraiment quand tu te coupes le doigt et que tu suces. Et du coup, c'est vrai qu'on reconnaît bien ce goût métallique. Et du coup, je me demande à quel point c'est pas genre écœurant quand on a vraiment beaucoup. Mais voilà, après le liant, surtout que la plupart, voilà, c'est avec du chocolat et des trucs comme ça. Bon, on peut quand même faire encore un peu la critique du fait que c'est un énième dessert, tu vois. Mais ouais, ouais, j'étais. C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec toi. Des trois épreuves, c'est ceux où j'aurais vraiment voulu le plus goûter les résultats.
Donc, Seb finit troisième de cette épreuve. Et alors là, on a un Sébastien qui nous fait clairement la recette hardcore du jour, où tout simplement, il décide de servir le foie cru en dessert. Il l'a fait avant un peu macéré dans un mélange. Alors là, le mélange, c'était, je pense, tout ce qu'il a trouvé dans le garde-manger, puisqu'il nous met à la fois du sirop, du café, de la vanille, du kombava, de la coriandre. Clairement, ça a dû baffer dans la glotte des chefs qui ont goûté ce truc-là. On va pas y passer, je pense, deux heures. On est d'accord, c'est ça qui le fait perdre, en fait. C'est le foie cru.
Mais ouais, c'était une idée vraiment bizarre. J'ai l'impression que ça marche pas souvent. Hein, tu vois, quand il y a des épreuves de foie ou de toutes les viandes en général, sauf le poisson parce que c'est un peu particulier, mais toutes les viandes en général, on voit souvent ça. Tu vois, en dernière chance, t'en as toujours un petit malin qui essaie de faire un tartare en disant ouais, moi là, l'originalité de mon assiette, c'est que c'est ce qui va être autour qui va faire la beauté du plat. Mais franchement, ça marche jamais. Et là non plus, ça a pas marché. Et vraiment, ce que tu dis, en fait, d'avoir mis ce mélange de tout, là, de kombava, café, sucre, sirop, machin, on dirait que c'est presque plus... Je vais mettre toutes les épices possibles pour cacher le goût de là-bas, tu vois. Ça me fait d'ailleurs un peu penser à l'épreuve de Adrien Cachot, là, où ceux qui avaient... alors, je sais plus ce que c'était, là, mais c'était l'estomac, là, un truc comme ça. Essayer de cacher le goût, parce que... Le bonnet. Ils essayaient de cacher le goût parce que ça se sentait, enfin c'était immonde quoi. Et là on dirait que c'est un peu la même chose quoi. Ils essaient de cacher le goût pour dire j'ai quand même mis ça là-dedans et voilà. Et ce qui est dommage parce que son assiette pour le coup esthétiquement c'était peut-être la plus belle des trois là, avec toutes ces petites billes partout, ça faisait vraiment un espèce de petit tableau, c'était hyper beau.
Ouais je te rejoins visuellement, je suis d'accord, c'était la plus jolie, mais tu sens que les chefs ils sont pas rassurés hein, au moment où il y a le foie cru et Chebest il fait pas le malin clairement d'aller goûter ça. Je peux le comprendre pour le coup. C'est vrai que je serais peut-être moins parti sur la dégustation de celle-là, le foie cru là comme ça, en dessert. Bon, c'est dommage parce que comme tu dis, le reste était pas trop mal, mais il perd là-dessus. Un excès d'originalité peut-être, vraiment il est parti en live total là-dessus. Bon,
Mais honnêtement, c'est vraiment cette demi-finale, c'est du classique Sébastien. Quoi. Genre, ouais. Sur son épreuve et sur l'épreuve d'Arnaud, il est resté très très classique en utilisant vraiment presque que les ingrédients cités dans la recette. Et après, sur l'épreuve de Louise, là, il est parti beaucoup trop loin et ça fonctionne pas, quoi. Et c'est vraiment le reproche qu'on lui a fait toute la saison de pas arriver à trouver ce juste milieu entre son classicisme et entre partir trop loin, quoi. Et finalement, ça s'est encore répliqué là et c'est ce qui le fait ne pas aller en finale.
Ouais, exactement. Fini deuxième de cette épreuve, Arnaud, bien poussé hein, par Glenville pendant l'épreuve, qui lui dit vas-y, teste le sang, fais le cuire comme ça, garde-le, regarde, ça coagule, qu'est-ce que tu peux en faire, tout ça. Bon, au final, ça sert pas à grand chose puisqu'ils finissent deuxième, et on l'a dit dans ce format d'épreuve, finir deuxième ça n'apporte rien. Bon, sympa ce petit pancake au sang, non? Sans sarrasin, ça avait l'air de se manger. Hein.
J'étais étonné que ça fonctionne. Après, moi, je trouve pas ça hyper gastro quand même, les pancakes. Enfin, c'est quand même oui. Souvent assez sec. C'est pas de la grande gastronomie.
Non.
Après, c'est vrai que t'en as parlé, le chef Glenville. Moi, j'étais encore une fois en mode mais attends, mais là c'est lui qui fait l'épreuve là. Non, bah attends, tac, hop, on peut en faire caramel machin, allez viens on y va, on va voir. Tu sais, je me disais mais attends, mais il fait tout là. C'était presque Arnaud le comique qui faisait ce que Gabriel lui disait. Donc on l'a dit plusieurs fois dans la saison, bah écoute, tant qu'on le stoppe pas, il a raison de faire ça, l'ami Gabriel, hein. Écoute, première saison, il amène déjà un candidat en finale, donc c'est que sa méthode fonctionne. Enfin, en tout cas, elle a fonctionné avec Arnaud bien plus qu'avec Lucie, par exemple.
Ouais, ça.
Salut. Ouais, bah quand. T'en parlais tout à l'heure là, mais c'est vrai qu'on va voir le retour de Lucie en finale. Je spoil un peu, mais alors je sais pas qui l'aura dans son équipe. Mais ouais, bon, oui, c'est vrai que le plat d'Arnaud, c'était une bonne idée avec les aliments qu'il avait, quoi. Et si je me trompe pas, ils sont quand même tous partis sur le chocolat avec le sang.
Ouais,
ont tous fait du chocolat avec le sang. Donc, alors je sais pas si c'est une association connue, j'en ai pas l'impression, mais c'est vrai que bon, déjà quand tu veux faire un dessert et un goût rond un peu réconfortant qui va venir casser ce goût marqué métallique du sang, ouais, c'est peut-être une bonne idée le chocolat.
Ouais, bon, je pense que c'est quand même bien l'idée, chocolat sang, effectivement, je vais pas dire que c'est un mélange classique, parce que voilà, mais du coup, ce qui était mentionné en début d'épreuve, hein, c'est qu'il y a un dessert napolitain qui est en partie là-dessus, c'est le sanguinaccio, qui est une sorte de pudding base de sang, chocolat, qui était servi à Naples avant le carême, sache-le. Voilà, c'est la veille du carême que tu mangeais ça. Et petite info, si vous allez en Italie et que vous vous dites « Tiens, je vais essayer dans la région de Naples, je vais essayer d'en trouver en dessert pour savoir ce que ça vaut », sachez que ça ne se fait plus, puisque depuis 1992, là c'est le moment culture du podcast, depuis 1992, il n'y a plus de vente de sang de porc comme ça. Tu ne peux plus acheter du sang de porc frais. Donc du coup, si tu veux goûter du sang de Nacho, faut aller acheter un cochon et l'égorger. Et bon, ça devient plus compliqué peut-être pour un dessert. Mais bon, du coup, juste pour revenir sur Arnaud, ce qui a l'air de marcher quand même dans son plat, c'est ce crémeux chocolat foie de volaille. Je sais pas comment, si toi t'as vu un peu, en fait, avec le retour des chefs, je vois pas très bien non plus ce qui lui a manqué dans son plat pour gagner. Il n'y avait pas vraiment de critique, est-ce que c'est parce que t'as eu le sentiment que Louise était vraiment plus forte, ou pareil, tu sais pas trop pourquoi Arnaud finit deuxième en fait?
En fait, moi, je trouve que son plat peut-être manque un peu de relief dans les goûts, tu vois, dans le sens où t'as ton pancake au sarrasin avec du sang, à côté t'as du caramel, bon, c'est sucré, t'as ton crémeux au chocolat, bon, c'est sucré, tu vois, biscuit amande noisette, il y a rien. En fait, moi, je trouve qu'il y a une palette de goûts qui est pas très étendue, alors que tu vois sur celui de Louise, moi, je trouve que à partir du moment où tu vois t'as ta peau de poulet, en fait moi c'est surtout tu vois la poire, je trouve qui vient amener un énorme tranchant dans les goûts, avec un truc vraiment beaucoup plus frais, beaucoup plus, enfin qui a plus de peps. Je sais pas si c'est ça qui a fait la différence, ou le fait que tous les éléments de l'assiette de Louise sont, je trouve, un peu plus originaux, qui ont fait gagner Louise là-dessus.
Ouais, et ben enchaînons sur Louise donc. Elle part sur clairement un dessert, du coup inspiré de ce dessert italien, où elle fait un pudding de boudin dans lequel elle incorpore des fruits, glace foie de volaille vanille, et puis cette poire pochée à l'hibiscus qui visiblement, comme tu dis, a eu l'air d'apporter cette dimension en plus dans le dessert et de peut-être faire la différence. Visuellement, c'était beau, c'était maîtrisé. Épreuve bien, bien réussie pour Louise.
Ouais, bien réussie, ça m'a fait un peu peur. Je pensais que, surtout quand elle finit troisième de la première épreuve, je me dis, faut vraiment qu'elle tabasse les deux autres. Sinon, s'il y a égalité, j'ai peur qu'elle sorte, surtout avec ce poisson-là et tout. Moi, je trouve vraiment très belle assiette. La poire à l'hibiscus, la pochée à l'hibiscus, je trouve ça magnifique. Enfin, j'en ai parlé là sur la partie goût, mais sur la partie visuelle, là, ce rose pétant, je trouve ça vraiment magnifique. Et surtout, en fait, ça tranche aussi énormément avec la couleur, parce que avec la couleur du sang et du chocolat, où finalement dans tous les autres plats, bah t'as que des trucs un peu sombres, enfin tu vois, dans dans le marron, dans le rouge, rouge pourpre et tout, et là t'as ce truc rose pétant et ouais, bah c'est une vraie assiette de Louise, quoi.
Ouais, et puis elle est, sur le coup elle est maligne, parce que sur le boudin elle le fait elle-même, elle a fait exprès de pas mettre de boudin dans le garde-manger, parce qu'effectivement ses collègues auraient pu se dire ok, boudin, on va retrouver le goût du sang, ça va me permettre de contourner un peu le truc. Elle le fait elle-même, donc petit coup de vis bien mené par Louise sur cette épreuve. Ça lui réussit donc, puisqu'elle finit première. Et enfin on enchaîne donc sur la dernière épreuve, où là alors là, comment parler de cette intro d'épreuve pour Sébastien? J'étais partagé entre un peu de gêne quand même, hein, et de rire. Je sais pas, toi, le Dark Sébastien, ça t'a plu, le petit narratif là?
Alors, moi, ça m'a fait rire, mais parce que j'avais plus l'impression que tu sais, de regarder le Joker, quoi. Le mec qui était en train de briller, psychopathe. Et puis, en fait, ouais, ça fait rire parce que tu l'as vu toute la saison, donc tu t'apprends pas à connaître le candidat, donc en fait tu trouves pas ça crédible et tu te dis genre il va pas pouvoir garder cette tête genre pendant ces deux heures d'épreuve, forcément après il va se remettre à chanter au pays de Heidi, tu vois, donc c'est ouais, c'est un peu toujours l'ambivalence avec Sébastien, où d'un côté c'est sympathique, d'un côté c'est un petit peu gênant, d'un côté on comprend pas pourquoi il hurle je suis une tempête toutes les trois minutes.
Merci, pourquoi il hurle je suis une tempête, je comprends.
Mais je sais, on dirait, tu sais, les gimmicks de catcheur, mais là c'est catcheur low cost, quoi. Donc je comprends pas et je sais pas, je suis sûr que Raoul en fera un jingle l'an prochain.
Ah bah je pense,
mais ouais. Mais ouais, bon, c'était bizarre, et surtout après en fait que son épreuve est pas hyper intimidante non plus, tu vois, donc là il vient ouais Dark Sébastien, mais l'épreuve est pas très intimidante, enfin c'est la moins intimidante des trois, je pense.
Ouais, donc effectivement son épreuve il demande aux hôtes de revisiter le lièvre à la royale, et vraiment ce qui semble être la grosse contrainte dans son épreuve, c'est le fait qu'il n'ait que 2 heures pour faire ça, alors que c'est un plat qui demande beaucoup plus d'heures, puisque le lièvre est cuit presque confit en fait pendant des heures et des heures. Donc c'est la petite difficulté technique, d'autant plus que le lièvre, hein, les rabes sont pas fournis, il faut le déboîter et le désosser alors là, pour nos amis véganes, ou on va dire protection animale sensible, c'était clairement pas la scène à voir, parce que c'était une boucherie, mais en direct à la télé. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de la boucherie pareille. On aurait dit, tu sais, l'époque des émissions de Maïté, quoi, où elle tabassait l'animal sans aucun remords. C'est vrai que ça faisait pas très 2022. Bon, après, le lièvre était déjà mort, donc au moins on les a pas vus, tu sais, tordre le cou du lièvre pour y aller, quoi.
Et dépecer.
Ils nous ont prémunis de ça. Alors là-dessus, je t'avoue que moi j'étais un peu étonné, parce que je pensais que du coup la découpe et le désossage du lièvre allaient être quelque chose de plus technique et qui allait mettre vraiment en difficulté les autres. Et au final, ça avait pas l'air d'être si compliqué que ça, fallait juste couper, quoi.
Ouais, ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ah, ça m'a fait, tu vois, un peu penser à cette épreuve qu'il y avait eu dans Top Chef, là, avec les 100 meilleurs ouvriers de France, et c'était Camille Delcroix qui avait gagné. En fait, le format de l'épreuve à l'époque, c'était que, je sais plus, là, il devait découper un poulet d'une certaine manière, ouais. Et ça avait l'air hyper technique. Et une fois que c'était bien fait, ils avaient droit d'aller cuisiner. Et du coup, bah, si tu finissais en premier, bah, t'avais plus de temps et tout. Et ouais, c'était Camille Delcroix qui avait gagné. Et donc, je me suis dit, ouah, ça doit être un truc pareil, là, où tu sais, il faut aller choper le bon tendon, le bon truc pour sectionner tout. Non. En fait, tu prends un espèce d'énorme couperet, là, et tu tapes comme un sonnet pour couper le truc. c'est bestial.
Bah ouais, c'est ça, et du coup c'est vrai que moi ça m'a un peu étonné, parce que je pensais que ça allait lui apporter une sorte d'avantage technique, parce qu'il y avait une technicité à avoir. Bon, finalement c'est pas le cas, et on le dit tout de suite, Seb se fait piéger, il finit 3e de sa propre épreuve, et donc c'est ce qui l'élimine. Petite pensée pour nos collègues, hein, Raoul et Sébastien, qui avaient dit que souvent le choix d'une épreuve très technique se retournait contre le candidat. Bah là c'est clairement le cas, où Sébastien s'est foiré, et notamment sur sa cuisson. Il annonce à Paul Perret qu'il va cuire le lièvre, je crois, en 8 minutes. Et là, Paul Perret le regarde genre, bah, t'es sûr de ton coup là, genre en 8 minutes dans de l'aluminium, tu vas me cuire le lapin, enfin le lièvre, pardon. Bon, on peut pas dire qu'il a pas été prévenu, Marco.
Non, clairement pas. Et en fait, à partir du moment où on voit ça, on se dit, bah ok, c'est lui qui a perdu. Parce que dans les demi-finales, t'as l'impression que personne ne fait d'erreur en fait, ou d'erreur grossière. Mmh. Et ouais, se rater sur une cuisson, sur ton épreuve, donc tu savais à quoi t'attendre en demi-finale, ouais, c'est rédhibitoire, quoi, c'est rédhibitoire.
Ouais, c'est vrai que du coup, le choix est un peu raté. C'est pareil, il demande une garniture en pommes soufflées. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a... Enfin, même si les autres, du coup, ok, ont pas très bien réussi leur pommes soufflées, c'est tellement quelconque par rapport finalement à la préparation du lièvre que la pomme soufflée en tant que telle, c'est même pas un truc sur lequel tu vas te démarquer. Bon, c'est un choix un peu raté, ouais, de Sébastien. Et en plus, sa recette était d'un classique comparé aux autres. Enfin, il a même pas eu cette touche de créativité dans sa recette au final.
Non, pas du tout. On aurait dit presque un copier-coller de la recette originale, en fait. La recette originale est quand même pas très appétissante. On dirait vraiment un truc qui va être servi à Henri IV avec du faisan et du sanglier, là. Ça donne pas trop envie. Mais oui, il est resté dans le même truc, quoi. Donc, voilà, il a son rab, il a son foie gras, il a les marqueurs, tu vois. Et les ingrédients à côté qui rajoutent, voilà, tu vois, du réfort, radis, c'est plus des trucs qui vont venir te piquer le palais, mais. Mmh. Je trouve que ça apporte pas énormément et ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Ça reste très classique et c'est pas ce qu'on attend à ce niveau-là de Top Chef.
Ça c'était une épreuve pour Pascal, à mon avis. Pascal, le lièvre à la royale, tu vois, ça aurait été son truc. Et sur le côté vieux, bah de toute façon, c'est ce que dit Arnaud, hein, en voix off, en témoignage, hein, pendant tout le truc, il dit ouais, j'ai vu ça une fois dans un catalogue pour vieux. Enfin, tu sens que c'est clairement pas le plat de la modernité. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant, finalement, je trouve, même par rapport à toute cette saison, qu'on finisse presque par ça, dans une saison où on est toujours allé de plus en plus loin dans l'inventivité, j'ai envie de dire, peut-être parfois trop. Là, on finit par un lièvre à la royale. Bon, c'était un peu le choc et le paradoxe que j'ai trouvé de cette demi-finale. Alors, deuxième, mais je suis même pas sûr qu'elle finisse deuxième, hein, c'est pas très clair. On va la mettre deuxième, allez. Louise. Bon, visuellement, c'était le plus joli, non ?
Ouais. C'est... Bon, comme souvent, en fait, elle a vraiment des plats que je trouve pétillants, tu vois. Que tu les regardes, ça donne envie. Voilà, c'était le plus joli plat des trois. Hein.
Donc, Louise, elle prend le parti pris de le moderniser en rajoutant un goût iodé à ce lièvre à la royale, donc avec l'ajout d'anguilles et de feuilles d'huître, notamment sur le dessus, avec une petite salade en accompagnement, histoire d'être un peu plus dans la légèreté avec ce plat qui est quand même avec une sauce foie gras, machin, qui a en plus de l'insert foie gras à l'intérieur. Bon, parti pris, hein, on sent que c'est le chef Lesquer, hein, qui est invité, qui d'ailleurs, je trouve, le chef Lesquer a un petit accent... noble bourge qui allait très bien avec ce lièvre à la royale, je sais pas si t'es d'accord, mais...
Non, c'est vrai que j'y avais pas pensé, je l'ai trouvé vraiment très bon, très sympa, mais ouais, c'est vrai qu'il avait, un peu... il lui manquait une particule, quoi, Christian Bleu,
ouais,
ouais.
J'espère.
Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai. Alors, son plat était légèrement iodé, pas iodé, attention à toi, Raphaël. Parce que ça change beaucoup.
Visiblement.
C'était sympa comme moment, le moment où on lui dit que c'est pas assez iodé. Elle a dit, mais j'ai pas dit iodé, j'ai dit légèrement iodé. Tu vois, ça fait, j'allais partir dans les clichés de dire mauvaise foi féminine, tu vois, mais ouais, un peu de mauvaise foi, un peu de mauvaise foi là-dessus. C'est vrai que si tu mets iodé dans ton titre, faut avoir le goût d'iode, quoi. Mais ouais, bah son plat, c'est une jolie revisite, tu vois. Tu penses pas, dans un plat avec du foie gras, avec du lapin, tu penses pas qu'on va te mettre un truc de la mer avec, quoi. Donc ouais, bah encore une fois, c'est un peu ces espèces de petits coups de génie, ces inspirations qu'elle a qu'elle a démontré pendant toute la saison, en fait, qu'elle nous montre là de nouveau.
Ouais, je suis plutôt d'accord. C'était clairement le plus créatif des trois et les goûts étaient globalement assurés. Donc du coup, c'est pas de surprise qu'elle finisse devant Seb là-dessus. Et donc celui qui est premier, a priori, hein, parce que c'est le premier qu'on nous montre à lever la cloche, mais je suis même pas sûr du coup que ça veuille dire qu'il finisse premier de l'épreuve. Arnaud, et là Arnaud, pour moi cette épreuve c'est un peu à l'image de sa saison et de en partie ce qu'il a mené jusque là, c'est pas mal de roublardise quand même, non? Que ce soit sur la pomme soufflée où il nous fait un enchaînement de deux patates pour la coller, on va dire, ou que ce soit sur cette ballotine inversée finalement pour gagner du temps sur la cuisson, bah voilà, c'est le Arnaud depuis 4 semaines en fait.
Ouais, c'est ça, il est malin, il est très pragmatique, il fait des trucs qui fonctionnent, il sait que ça va fonctionner. Et il fait fonctionner ça, et c'est malin, mais d'un autre côté, c'est un peu créatif, un peu inventif. Donc ça fait mouche à chaque fois. Il rajoute son petit élément, là, le kumquat, qui pareil, tu te dis qu'est-ce que ça va faire là-dedans, mais bah, du coup, ça te rajoute ce petit, alors je sais pas si c'est un fruit ou un légume, mais... mais voilà, ça te rajoute un petit élément un peu végétal. Voilà, c'est ouais, t'as raison, c'est bien vu quoi. C'est la roublardise d'Arnaud.
Ouais, non, vraiment, moi, je me suis dit, ok, il a trouvé les petits trucs un peu malins qui font la différence. C'est clairement pas le candidat le plus talentueux de l'histoire de ce concours, hein, et voilà. Mais c'est sa force depuis plusieurs semaines, c'est de toujours trouver la solution, d'être une sorte de. Finalement, presque de 4x4 tout terrain, que ce soit dans une épreuve technique qui est censée être technique, il s'en sort en trouvant des petites astuces. Dans les épreuves plus créatives, il a une certaine sensibilité qui lui permet de s'en sortir aussi. Donc, on l'a dit en début d'émission, hein, finalement une place en finale méritée. Et voilà, donc là, cette épreuve sur le lièvre, il s'en sort comme ça. Pas grand chose. Pas de surprise, ouais, sur cette épreuve-là, hein. Seb se foire, ça paraît mérité.
Ouais, c'est mérité, il n'a pas montré assez, il n'a pas été au niveau, notamment sur son épreuve, en fait. C'est ce qu'on disait, hein. C'est vraiment sur ton épreuve, en fait, que tout se joue, parce qu'à partir du moment où tu remportes la tienne, bah, t'as plus rien à perdre après sur les autres. Et là, ouais, il a pas été assez loin. C'est lui qui perd son épreuve, c'est lui qui perd sa demi-finale. Hein. Il finit quand même deux fois troisième sur trois épreuves. Donc bon, oui, résultat logique et qui n'est pas pour nous déplaire.
Effectivement. Eh bien, écoute, je te propose qu'on passe à la finale après un petit jingle.
Dragon Ball Z ? Qui est Dragon Ball Z ?
Moi je fais tu vas être des chefs.
7 ans de Top Chef pour en arriver là.
Voilà.
Je suis décontenancé.
Un caca, un rouleau de papier et toilette, des feuilles de papier toilette.
Je sens qu'elle est peu sensible à mon humour.
C'est pas ma spécialité, la psychologie.
Donc, la finale, on vous l'a dit, c'est la semaine prochaine. Arnaud contre Louise, on a déjà un peu parlé du style des deux candidats et de leur parcours en début d'émission. On va se projeter un peu sur cette finale, si tu le veux bien, Marco. Comment tu vois les choses? Est-ce qu'on va avoir un peu ce format classique selon toi, avec un candidat qui va faire du très original et un autre qui va assurer par les goûts? Comment tu vois le truc, toi?
Ça ressemble... On dirait que ça va un peu se profiler là-dessus avec... J'ai plutôt l'impression qu'on va avoir un Arnaud qui est sur des trucs, on va dire, un peu safe, un peu réconfortant et qui vont plaire au grand public. Et d'ailleurs, en fait, je trouve que c'est un peu un truc qui se rapproche de son métier dans la vie de tous les jours, puisqu'il me semble qu'il était chef cuisinier, enfin chef exécutif d'un groupe d'hôtellerie. Donc voilà, c'est pas de la... je pense de la cuisine très 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 pointue qui propose, et il veut plus un truc qui plaît à tout le monde, c'est plus son credo et c'est plus ce qu'il nous a montré toute la saison, en fait, des associations plutôt connues, des goûts connus. Il part jamais dans des aliments alambiqués comme Louise par exemple. Donc moi on peut plutôt s'attendre à ça du côté d'Arnaud, tandis que ouais, du côté de Louise, je pense que ça va être plus un peu un qui tout double avec un peu sa marque de fabrique de elle va vouloir faire des plats qui sont marquants, tu vois, avec vraiment des éléments qui te mettent un peu un kick et dont tu veux te souvenir. Donc c'est vraiment deux oppositions de style qu'on peut avoir, je pense.
Et on rappellera hein, juste sur les deux dernières saisons notamment, on a souvent eu cette opposition-là et c'est toujours celui qui part sur le menu réconfortant, on va dire, le menu avec des saveurs connues mais qui plaisent, qui s'en sort. Hein. Je pense à David Gallienne contre Adrien ou je pense à Mohamed contre Sarah. À chaque fois, c'était le candidat qui va dans le... pas dans le classicisme, hein, parce que c'est pas classique, mais qui prend les saveurs connues et qui les sublime pour l'emporter. Est-ce que Louise est capable d'inverser cette tendance peut-être. Moi, je me dis, l'avantage qu'elle peut avoir par rapport peut-être à Adrien et Sarah sur les autres saisons, c'est qu'on l'a aussi vu cette année, je trouve, faire des choses assez... assez grand public, je pense à l'épreuve là c'était qui ? C'était Stéphanie Le Kellec, ouais. Où elle fait là cette espèce de morue confite avec des patates hyper grasses, hyper réconfortant. Tu vois, moi j'ai l'impression qu'elle peut aussi faire un peu ce genre de plat quand même.
Ouais, bah c'est vrai que d'un côté, et on en a souvent parlé, des fois elle fait un peu des trucs trop sophistiqués. C'est vrai qu'à chaque fois quand elle nous explique ces plats là, t'as la moitié des ingrédients, c'est des trucs que t'as jamais goûté de ta vie. Et donc je pense que quand on te les annonce, tu vois, si tu fais partie des 80 personnes là, ou 90 personnes qui viennent manger de la Croix-Rouge, c'est vrai que je pense que tu t'attaches forcément moins à un plat où tu te dis je sais pas ce qu'il y a dedans en fait, et même si c'est bon, et ben tu sais pas ce que t'as mangé. Alors que si on te dit c'est des pommes de terre et que c'est incroyable, tu te dis ah ouais, genre les pommes de terre que je mange tous les jours, cette personne a réussi à en faire un truc incroyable. Mais d'un autre côté, c'est vrai que Louise revient souvent sur le fait de je viens d'une famille qui est pas très fortunée. On mangeait avec les aliments de Monsieur Tout le Monde, voire les restes des aliments de Monsieur pas Tout le Monde quoi. Et du coup, c'est vrai que ça peut faire partie de sa cuisine. Je sais pas du coup dans quelle direction elle ira dans ces cas-là. Quelle aura été sa stratégie. Ouais. Sachant que là, c'est quand même une épreuve, enfin, une finale où tu as quand même beaucoup plus de temps pour préparer, pour tester ton menu. Puisque tu sais, après, ils arrivent avec leurs fiches, avec toutes les recettes, les machins et tout. Donc, je pense que ça joue en sa faveur de ne pas être juste prise au dépourvu par l'énoncé de l'épreuve et juste se dire bah, attends, je vais partir sur des trucs complètement différents pour essayer de marquer et de me démarquer. Donc j'espère qu'elle va faire ce que tu nous dis en fait, un plat un peu plus convivial, réconfortant, un truc auquel tout le monde peut s'identifier. Ouais, j'espère qu'elle va nous faire ça.
Ouais, moi vraiment je suis intrigué par le choix qu'elle va faire parce que je trouve qu'elle a un peu ces deux palettes là. Donc je sais pas si elle va réussir à trouver, on va dire, la fusion entre les deux ou faire le choix d'une plutôt que l'autre. Mais ça m'intrigue. Alors que Arnaud, comme tu dis, Sans savoir ce qu'il va proposer, j'ai à peu près une vague idée de ce vers quoi il va tendre. Je serais pas étonné d'ailleurs qu'il ne fasse quelques saveurs un peu côté méditerranéenne, italienne, parce qu'il en a fait plusieurs hein, cette saison, des petits clins d'œil. Je pense à l'épreuve de Stéphanie Le Kellec, l'épreuve avec Marc Cola Greco. Enfin, je serais pas étonné qu'ils soient en plus des goûts, en général, goûts, on va dire, cuisine italienne. Sont pas les plus élaborés, mais c'est des goûts réconfortants qui marchent bien avec le grand public. Donc je serais pas surpris qu'ils partent là-dedans. Pour toi, qui gagne ?
Pour moi, je pense quand même... Je tendrai quand même plutôt sur Louise, parce que je pense que même si des fois elle part un peu trop dans la sophistication... De ce qu'on en voit, de ce que disent les chefs, elle arrive quand même toujours à faire des goûts que t'oublies pas, tu vois, des sauces incroyables, des accompagnements vraiment qui ressortent du lot. Et tu vois, moi je me dis, tu manges deux plats, t'arrives à la fin, tu dois voter, bah, quand tu repars en arrière, tu te dis, bah attends, qu'est-ce qui m'a marqué? Et en fait, j'ai l'impression que elle, c'est son talent d'arriver à faire des trucs qui te laissent pas indifférent. Et pour moi, voilà, c'est forcément ces petits pics qu'elle va arriver à mettre qui peuvent faire la différence par rapport à la fameuse cuisine réconfortante où ça va être peut-être plus linéaire. Tu vas aimer, mais ça va te faire moins grimper au plafond que peut faire Louise. Donc moi, je la mets en favorite. Je pense qu'elle va gagner et j'espère qu'elle va gagner, ce qui serait plus logique, on va dire, sur toute la saison.
Écoute, comme toi, je pense aussi qu'elle va gagner. Je crois au fait qu'elle va trouver un peu cet équilibre entre plat de racines, on va dire, et originalité pour un peu se démarquer d'Arnaud. Donc, je vais aussi y aller avec Louise. En général, les scores de mémoire, c'est sur 100. Hein. L'écart se fait sur 100. Un petit prono.
Allez. Si tu me demandes un prono, je vais te dire un 60-40.
Ouais, quand même, 60-40. Ouais, bel écart. Écoute, ouais, moi je vais partir un peu plus faible, je pense plutôt autour de 55-57, mais 60, ça veut dire qu'elle aurait bien gagné sa finale quand même, hein, pour le coup.
Ouais, oui. Bah, de 20 personnes d'écart, quoi.
Ouais. Bah, c'est possible, hein.
Mais parce que voilà. Oui. Et je pense que. Parce que là, il me semble que la note des chefs, je sais pas, ça compte pour moitié. Tu vois, sur ce genre d'épreuve-là. Puis tu vas avoir la sorcière Hélène Darroze, sorcière dans le bon sens du terme, qui va essayer d'influencer toute la soirée, tu vois. Alors que Glenville, je pense qu'il est un petit peu plus timide et tout. Et puis Hélène Darroze, elle serait sur un back-to-back-to-back, là, trois victoires de suite.
Le free fit, comme disent nos amis fans de NBA, clairement, elle écrit l'histoire de Top Chef, là, avec un triplé. C'est marrant parce qu'il y a deux saisons encore, plein de gens disaient Darroze en coaching, machin, elle choisit pas les bons candidats. Bon, bah écoute, visiblement en ce moment, elle a la main verte, on va dire ça comme ça. Et allez, juste pour finir, si toi tu devais composer ta brigade pour t'épauler là sur la finale, t'as le choix avec quatre candidats de la saison, tu prends qui?
En plus de moi?
Ouais.
Je pense que je prends Lilian, qui à mon avis peut te faire des. Voilà, peut te faire. Si t'as une partie technique à faire. Lui, il va te le faire, il va te le faire comme il faut, quoi. Tu vois, sur des cuissons, sur des produits un peu nobles et tout. Je pense que je prends Pascal parce que sur des épreuves comme ça, où quand même il faut un peu tabasser parce que tu dois servir sans convives. Et tu sais, il y a toujours des trucs genre hyper chiants à faire, genre tu dois épeler 25 kilos de patates et tout. Raoul va encore me tuer parce que je dis que Pascal va faire le commis. Mais là, c'est plus vraiment dans le sens positif.
Ah non, mais c'est sûr
qu'il
va faire le commis, là. Enfin,
Ouais. Mais si, voilà, si t'as une énorme... si t'as une énorme masse de trucs à faire, voilà, je pense que c'est intéressant de l'avoir avec toi.
Et un troisième, allez.
Allez, un petit troisième, je prendrais... c'est quoi son nom? C'est Thibaut. Thibaut, tu vois, genre il est aussi chef d'un restaurant. Je pense que ça peut être un espèce de bon adjoint pour faire aussi tout, voilà, tout le pour gérer un peu tout ce qu'il y a autour, faire tout le management du truc, t'envoyer les assiettes et tout. Et puis après un quatrième, j'en ai pas un qui me vient immédiatement en tête.
Non, bah écoute, sur les trois, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Pascal, moi c'est peut-être même le premier que je prendrais parce qu'il a ce côté meilleur apprenti de France. Pour moi, il a déjà la mentalité mof, et donc je pense que dans une épreuve, en finale comme ça, il peut tabasser et couper de la patate et envoyer l'assiette et couper. Enfin, clairement, Pascal, je crois même que c'est le premier que je prendrais. Je te rejoins sur Lilian. Limite, Lilian, tu peux lui confier une des parties de ton repas. Tu peux lui dire, vas-y, fais-moi l'entrée, tu fais ça, et je pense qu'il l'exécutera parfaitement. Thibaut, comme tu dis, ça peut être un bon chef adjoint. Bon chef adjoint pour t'aider à driver les équipes par son expérience. Et puis peut-être en quatrième, moi je prendrais Mickaël. Il peut peut-être avoir l'idée réconfortante, tu sais, le petit gras réconfortant qui vient changer dans le plat et qui apporte la rondeur et la douceur.
J'avais oublié Mickaël, tu vois. On parlait des candidats marquants, pas marquants. Et pourtant, il était marquant jusqu'au moment où il est parti. Je l'avais oublié. C'est vrai. Et puis même. Ouais, bah ce qu'on disait là sur tout ce qui est les cuissons et tout, c'est tu le mets aux viandes ou au truc comme ça là. Oui. Il a montré qu'il savait faire, que c'était son truc. Et ouais, ce que tu dis là, il te fait un truc bien gourmand. Et surtout, tu vois, s'il est en association, je pense, bah plutôt avec Arnaud qu'avec Louise, je dirais. Je pense que leurs univers sont plus proches et qu'il nous fait soit, bah ce que tu disais, un truc bien méditerranéen, bien italien. Et d'ailleurs, j'y pensais pendant que t'en parlais, mais ça fait du sens de se dire que Arnaud, qui est belge, enfin on connaît les liens en fait entre la Belgique et l'Italie. Il y a énormément d'immigrés italiens en Belgique et tout, et même si c'est des cuisines très différentes, bah les deux sont des cuisines très réconfortantes et pas si sophistiquées que ça, quoi. Et voilà, ouais, c'est vrai que si on va, voilà, ou alors plus vers des recettes belges autour de la frite, autour des fruits de mer et tout, c'est vrai que je pense que Mickaël peut être une super aide.
Bah, clairement, Mickaël, si t'as genre 15 kilos de viande à cuire dans des énormes marmites, ça peut être le bon candidat pour t'aider. Et peut-être, sinon, en quatrième, en option, j'avais peut-être Seb pour le côté avoir un mec qui, pendant les 6 heures de finale, va t'apporter joie et va peut-être t'aider un peu à déstresser, tu vois. Genre.
Ouais, mais est-ce que c'est pas à double tranchant, quoi?
Ah,
C'est
c'est ça.
est-ce que ça peut pas être fun la première demi-heure et après, quand il te chante la Reine des Neiges, tu sais qu'il est 23h pour envoyer les plages, alors peut-être que.
C'est vrai,
Voilà.
c'est vrai. C'est comme tu dis, c'est double tranchant. Soit le mood, tu l'apprécies et t'es à fond dedans et le mec te booste et te met de la bonne énergie. Soit au bout d'un moment, tu fais Seb, tais-toi et épluche les carottes, quoi. C'est un peu comme tu dis, double tranchant. Eh ben écoute Marco, sauf si t'as un dernier truc à dire sur cette finale.
Eh ben non, non, j'ai hâte de la voir, hâte de voir qui va gagner. Je sais pas si c'est encore à l'hôtel d'ailleurs. D'habitude, tu sais, ils font ça un peu dans
Ouais.
les Alpes, là, je sais plus où, mais je sais
Ouais.
pas, je
Je
sais
sais
pas où ils vont
pas.
faire ça, ou si c'est dans un grand palace,
En
mais
tout cas,
hâte de
c'était
voir
une
ça.
jolie salle, hein. Du peu que j'ai vu, ça avait l'air d'être une jolie salle et avec Adriana Carambeu en guest star.
Ah oui, c'est vrai. Non, moi, le seul truc qui m'a choqué, t'en as pas parlé là, mais c'est la coupe de Lilian.
Oui, c'est vrai. Je
Non,
crois que mon cerveau a voulu l'oublier. Ouais.
mais ouais, c'était les. On était au retour. C'était le retour de Link Up avec Matt Pokora. Là, j'ai
Ah
pas
non,
compris.
c'était.
J'ai pas compris. Ceux qui
Ouais.
n'ont pas vu cette demi-seconde
Ah,
se
tu. Ok.
délecteront la semaine prochaine.
Link Up Matt Pokora. Ouais, moi j'avais sinon un peu. J'avais pas cette référence-là. J'avais plus une référence un peu style emo, limite borderline gothique. Ouais, je sais pas. C'était.
Placebo.
Bah ouais, placebo. Et c'est très bizarre parce que jusque-là, c'était un peu le beau gosse de la saison.
Mais
Et.
oui, mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Lilian?
Là, le mec, il va perdre toute son audience féminine, qu'il le visiblement, hein, c'est même pas pour faire du mauvaise langue, hein, mais il avait une bonne audience féminine sur les réseaux sociaux. Là, il va avoir une chute ou une incompréhension de son lectorat. Bon, écoute, je sais pas. Il nous sortit de la douche, je sais pas. Pas d'explication. Bon, en tout cas, c'est sur cette partie plus, on va dire, Christina Cordula, hein, pour faire clin d'œil à M6. Que se termine cette émission. On était ravis de débriefer ces demi-finales avec vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale et pour parler avec vous du vainqueur de Top Chef. N'oubliez pas que Micron Podcast, c'est sur toutes les plateformes de podcast de streaming audio. On est également sur Twitter, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à liker, partager nos podcasts et nous alpaguer, nous interpeller sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Eh ben, on se dit à la semaine prochaine. Salut Marco!
Bye bye.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
On se permet un petit mot avant de vous laisser. Si vous aimez les podcasts de TDA Media, n'hésitez pas à jeter une oreille à Occupation, notre émission de reportage. Toutes les 2 semaines, je vais sur le terrain à la rencontre de gens qui me font partager leur métier ou leur hobby. Barbier, marathonien, développeur, restaurateur et bien d'autres à venir. C'est dans Occupation que ça se passe, un mercredi sur deux, sur toutes les plateformes de podcast habituelles.